Chapitre 6. Paysage de neige. La vitesse, la mer, minuit, tout ce qui est éclatant, tout ce qui est noir, tout ce qui perd, et donc permet de se trouver. François Sagan. 1. Dimanche 20 décembre 1992. Je me réveillais tard le lendemain du meurtre. La veille au soir, pour sombrer, j'avais avalé 2 somnifères dénichés dans la salle de bain familiale. Ce matin, la maison était vide et glacée. Ma mère était partie dans les Landes, bien avant l'aube, et les plombs avaient sauté, coupant les radiateurs. Encore dans le brouillard, je passais un gros quart d'heure à bidouiller le compteur électrique, avant de parvenir à rétablir le courant. Dans la cuisine, je trouvais sur le frigo un mot gentil de ma mère, qui m'avait préparé du pain perdu. Par la fenêtre, le soleil qui étincelait sur la neige me donnait l'impression d'être à Isola 2000, la station de ski du Mercantour, où Francis avait un chalet dans lequel il nous invitait presque chaque hiver. Machinalement, j'allumais France Info. Depuis la veille, j'étais devenu un assassin, mais le monde continuait à tourner. L'horreur de Sarajevo, les enfants somaliens qui crevaient de faim, le scandale du sang contaminé, le choc PSG-OM qui avait tourné à la boucherie. Je me fis du café noir et dévorer mon pain perdu. J'étais un assassin, mais je mourais de faim. Dans la salle de bain, je restais une demi-heure sous le jet de la douche, où je vomis ce que je venais de manger. Puis je me brossais au savon de Marseille, comme je l'avais déjà fait la veille, mais j'avais la sensation que le sang d'Alexis Clément s'était incrusté sur mon visage, sur mes lèvres et sur ma peau, et qu'il y resterait toujours. Au bout d'un moment, la vapeur bouillante me monta à la tête et je manquai de m'évanouir. J'étais agité, la nuque raide, les jambes flageolantes, l'estomac strié de brûlures acides. Mon esprit était submergé. Incapable de faire face et d'affronter la situation, je voyais mes pensées m'échapper. Il fallait que tout ça cesse. Jamais je ne parviendrais à vivre comme si rien ne s'était passé. Je sortis de la douche en ayant pris la décision d'aller me dénoncer au commissariat. Puis je changeai d'avis presque dans la minute. Si j'avouais quelque chose, je précipiterais également la chute de Maxime et de sa famille, des gens qui m'avaient aidé et qui avaient pris des risques pour moi. Finalement, pour ne pas laisser l'angoisse me submerger, j'enfilai mon survêtement et je sortis courir. 2. Je fis 3 fois le tour du lac, sprintant jusqu'à l'épuisement. Tout était blanc et givré. J'étais fasciné par le paysage. Tandis que je fendais l'air, j'avais l'impression de faire corps avec la nature, comme si les arbres, la neige et le vent m'absorbaient dans leur cortex de cristal. Autour de moi, tout n'était que lumière et absolu. Une parenthèse glacée, un territoire vierge, presque irréel. La page blanche sur laquelle je me remis à croire que j'allais écrire les prochains chapitres de ma vie. En revenant vers la maison, les membres encore engourdis par la course, je fis un crochet par le bâtiment Nicolas de Staël. La résidence désertée avait des allures de vaisseau fantôme. J'eus beau frapper, ni Fanny ni Vinka n'étaient dans leur chambre. Si la porte de l'une était close, celle de l'autre était restée ouverte, laissant penser à une absence passagère. J'y entrai et demeurai un long moment dans ce cocon ouaté où régnait une tiède chaleur. La pièce était pleine de la présence de Vinka. Il s'en dégageait une atmosphère mélancolique, intime, presque hors du temps. Le lit était défait. Les draps portaient encore une odeur fraîche de cologne et d'herbes coupées. Tout l'univers de la jeune femme tenait dans ses 15 mètres carrés. Punaisées sur le mur, les affiches de « Hiroshima, mon amour » et de la chatte sur un toit brûlant. Des portraits d'écrivains en noir et blanc, Colette, Virginia Woolf, Rimbaud, Tennessee Williams. Une page de magazine illustrée d'une photographie érotique de Lee Miller par Man Ray. Une citation de François Sagan, recopiée sur une carte postale, qui évoquait la vitesse, la mer et le noir éclatant. Posée sur le rebord intérieur de la fenêtre, une orchidée Vanda est la reproduction d'une statue de Brancusi, Mademoiselle Pogani, que je lui avais offerte pour un anniversaire. Au-dessus de son bureau, quelques CD empilés en vrac, du classique, Satie, Chopin, Schubert, de la bonne vieille pop, Roxy Music, Kate Bush, Procolarum, ainsi que des enregistrements plus hermétiques qu'elle m'avait fait écouter mais que je trouvais imbitables. Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Olivier Messiaen. Sur la table de nuit, je repérais un livre que j'avais aperçu la veille. Un recueil de la poétesse russe Marina Tsvetaeva. Sur la page de garde, la dédicace plutôt bien troussée d'Alexis Clément me plongea dans un accablement profond. Pour Vinka, je voudrais n'être qu'une âme sans corps pour ne te quitter jamais. T'aimer, c'est vivre. Alexis. J'attendis mon ami encore quelques minutes. Des picotements inquiets couraient dans mon ventre. Pour patienter, j'allumai la platine laser et lançai le CD. Sunday Morning, le premier titre de l'album mythique du Velvet Underground. Un morceau qui cadrait bien avec la situation. Diaphane, éthéré, toxique. J'attendis et attendis encore, jusqu'à ce que je comprenne confusément que Vinka ne reviendrait plus. Plus jamais. Comme un drogué, je restai un moment dans la chambre, humant et mendiant quelques bribes de sa présence. Depuis toutes ces années, je me suis souvent interrogé sur la nature de l'emprise que Vinka exerçait sur moi, sur le vertige fascinant et douloureux qu'elle ouvrait en moi. Et j'en reviens toujours à la drogue. Même quand nous passions du temps ensemble, même lorsque j'avais Vinka tout à moi, la sensation de manque pointait déjà son nez. Il y eut des instants magiques, des séquences mélodiques et harmonieuses qui avaient la perfection de certaines chansons pop. Mais cette légèreté ne durait jamais longtemps. Au moment même où je les vivais, je savais que la grâce de ces moments était pareille à une bulle de savon, toujours sur le point d'exploser. Et Vinka m'échappait. 3. Je rentrai à la maison pour ne pas louper le coup de fil de mon père qui, tout juste débarqué du long voyage entre la métropole et Tahiti, avait promis d'appeler juste avant 13h. Comme les communications étaient hors de prix et que Richard n'était pas très loquace, notre échange fut bref et un peu froid, à l'image de ce qu'avaient toujours été nos relations. Puis je parvins à manger sans vomir la barquette de poulet au curry laissée par ma mère. Dans l'après-midi, je tentai tant bien que mal de repousser les pensées qui m'assaillaient en continuant ce que j'étais censé faire, des exercices de maths et de physique. Je réussis à résoudre quelques équations différentielles, mais bientôt je lâchai prise, renonçant à essayer de me concentrer. J'eus même un début d'attaque de panique. Mon cerveau était envahi d'images du meurtre. En début de soirée, j'étais complètement à la dérive lorsque ma mère m'appela. Alors que j'étais résolu à tout lui avouer, elle ne m'en laissa pas le temps. Elle me proposa de venir la rejoindre dans les Landes dès le lendemain. Après réflexion, elle avait décidé que ce n'était pas une bonne idée pour mon moral de me laisser seul pendant 15 jours. Mes révisions seraient moins pénibles en famille, argumenta-t-elle. Pour ne pas sombrer tout à fait, j'acceptai sa proposition. Je pris donc le train le lundi matin, dans la nuit encore enneigée. Un premier trajet d'Antibes jusqu'à Marseille, puis un train corail bondé qui arriva à Bordeaux avec 2 heures de retard. Entre-temps, le dernier TER était parti et la SNCF fut obligée d'affréter des bus jusqu'à Dax. Journée de galère ordinaire qui me vit arriver en Gascogne à minuit passé. Ma tante Giovanna habitait dans un ancien pigeonnier perdu dans la campagne. Couverte de lierre, la bâtisse avait un toit très abîmé et prenait l'eau de toutes parts. Dans les Landes, en cette fin d'année 1992, la pluie tomba presque sans arrêt. Il faisait nuit noire à 5h de l'après-midi et le jour donnait l'impression de ne jamais vraiment se déployer. Je n'ai pas de souvenirs très précis de ces 2 semaines pendant lesquelles je partageais le quotidien de ma tante et de ma mère. Une ambiance étrange régnait dans la maison. Les journées s'enchaînaient, courtes, froides, tristes. Il me semblait que nous étions tous les trois en convalescence. Ma mère et ma tante veillaient sur moi autant que je veillais sur elles. Parfois, lors de ces après-midi à Langui, ma mère faisait des crêpes que nous mangions, avachis, sur le canapé devant de vieux épisodes de Columbo, d'Amicalement Vôtre ou une énième rediffusion de L'Assassinat du Père Noël. De tout le séjour, je n'ai pas ouvert un cahier de maths ni de physique. Pour échapper à mes angoisses, pour échapper à mon présent, je fis ce que j'avais toujours fait. Je lus des romans. Je n'ai pas de souvenirs très précis de ces 2 semaines, mais je me souviens parfaitement de tous les livres que j'ai lus. Durant cette fin d'année 1992, j'ai souffert avec les jumeaux du grand cahier qui essayaient de survivre à la cruauté des hommes dans un territoire ravagé par la guerre. À Fort-de-France, j'ai parcouru le quartier créole de Texaco. J'ai traversé la forêt amazonienne avec un vieux qui lisait des romans d'amour. J'étais au milieu des chars lors du printemps de Prague, en méditant sur l'insoutenable légèreté de l'être. Les romans ne m'ont pas guéri, mais ils m'ont soulagé un instant de la pesanteur d'être moi. Ils m'ont offert un sas de décompression. Ils ont constitué une digue contre la terreur qui déferlait sur moi. Pendant cette période où le soleil ne se levait jamais, j'avais chaque matin la certitude que je vivais mon dernier jour de liberté. Chaque fois qu'une voiture passait sur la route, j'étais persuadé que c'était les gendarmes qui venaient m'arrêter. L'unique fois où quelqu'un sonna à la porte, bien résolu à ne jamais aller en prison. Je montais en haut du pigeonnier pour avoir le temps, au cas où, de me précipiter dans le vide. 4. Mais personne ne vint m'arrêter, ni dans les Landes, ni sur la Côte d'Azur. À Saint-Exupéry, lors de la rentrée de janvier, la vie reprit son cours normal, ou presque. Si le nom d'Alexis Clément était sur toutes les lèvres, ce n'était pas pour déplorer sa mort, mais pour gloser sur ce que prétendait la rumeur. Vinca et son prof entretenaient depuis longtemps une liaison secrète et s'étaient enfuis ensemble. Comme toutes les histoires sulfureuses, celle-ci passionnait la communauté éducative. Chacun y allait de son commentaire, de sa confidence, de son anecdote. La meute prenait plaisir à défaire les réputations. Les langues se déliaient pour se vautrer dans les ragots. Même certains profs dont j'admirais auparavant la hauteur de vue se laissaient aller au commérage. Avec gourmandise, ils rivalisaient de prétendus bons mots qui me donnaient la nausée. Quelques-uns surent rester dignes. Parmi eux, Jean-Christophe Graff, mon prof de français, et Mademoiselle Deville, la prof de littérature anglaise des Hippocagnes. Je n'assistais pas à ses cours, mais je l'entendis avoir cette formule dans le bureau de ma mère. « Ne nous abaissons pas à fréquenter la médiocrité, car c'est une maladie contagieuse. » Je trouvais du réconfort dans cette sentence, et pendant longtemps, elle me servit de référence au moment de prendre certaines décisions. Le premier à s'inquiéter réellement de la disparition de Vinca fut son grand-père et tuteur, le vieil Alastair Rockwell. Vinca me l'avait souvent décrit comme un patriarche autoritaire et taciturne, l'archétype de l'industriel self-made man qui voyait dans l'éclipse de sa petite fille un potentiel enlèvement et donc un acte d'agression par rapport à son clan. Les parents d'Alexis Clément commençaient également à se poser des questions. Leur fils avait prévu de passer une semaine au ski à Berchtesgaden avec des copains qu'il n'avait jamais rejoints, pas plus qu'il n'avait rendu visite à ses parents pour fêter comme de coutume le passage à la nouvelle année. Si ces deux disparitions plongeaient les familles dans l'inquiétude, les forces de l'ordre mirent un temps fou à déployer des effectifs pour mener une enquête sérieuse. D'abord parce que Vinca était majeur, ensuite parce que la justice hésita longuement avant d'ouvrir une procédure. L'affaire était un sac de nœuds au niveau de la juridiction compétente. Vinca était franco-américaine, Alexis Clément de nationalité allemande. Le lieu de leur disparition n'était pas clairement défini. L'un d'entre eux était-il l'agresseur? Ou étaient-ils tous les deux victimes? Après la rentrée, il se passa donc une bonne semaine avant que les gendarmes ne se déplacent à Saint-Ex. Et leurs investigations se bornèrent à poser quelques questions à l'entourage immédiat de Vinca et du prof de philo. Ils fouillèrent sommairement leurs deux chambres et y apposèrent des scellés, sans toutefois mobiliser de techniciens de la police scientifique. Ce n'est que bien plus tard, à la fin du mois de février, après la venue en France d'Alastair Rockwell, que les choses s'accélérèrent. L'homme d'affaires fit jouer ses relations et annonça dans les médias qu'il avait engagé un détective privé pour retrouver sa petite fille. Il y eut une autre descente de flics, cette fois des types de la SRPJ de Nice. Ils auditionnèrent plus de monde, j'y eus droit, ainsi que Maxime et Fanny, et pratiquèrent plusieurs prélèvements ADN dans la chambre de Vinca. Peu à peu, les témoignages et les documents saisis permirent de mieux cerner le déroulement des journées du dimanche 20 décembre et du lundi 21 décembre. Les deux jours où Vinca et Alexis s'étaient évaporés dans la nature. Ce fameux dimanche, vers 8h du matin, Pavel Fabianski, le gardien du lycée, affirmait ainsi avoir levé la barrière qui barrait l'accès de l'établissement pour laisser sortir l'Alpine A310 conduite par Clément. Fabianski était formel. Vinca Rockwell, assis sur le siège passager, avait ouvert sa vitre et lui avait fait un signe de la main pour le remercier. rebelote quelques minutes plus tard au rond-point du Haut-Sartoux, où deux employés communaux, qui déblayaient la neige, avaient vu la voiture de Clément légèrement patiner dans le carrefour avant de prendre la direction d'Antibes. C'est d'ailleurs avenue de la Libération, aux abords de la gare antiboise, que l'on avait retrouvé l'Alpine de l'enseignant garée devant une laverie automatique. Dans le train en direction de Paris, de nombreux voyageurs se souvenaient d'une jeune femme rousse accompagnée d'un homme portant une casquette de Mönchengladbach, le club de foot préféré de Clément. Le dimanche soir, le veilleur de nuit de l'hôtel Sainte-Clotilde, situé rue de Saint-Simon dans le 7e arrondissement de Paris, avait lui aussi assuré que Mademoiselle Vinca Rockwell et M. Alexis Clément étaient bien descendus pour une nuit dans l'établissement. Il avait réalisé des photocopies de leur passeport. La réservation de leur chambre avait été effectuée la veille par téléphone et réglée sur place. Les consommations du minibar comprenaient une bière, deux paquets de Pringles et un jus d'ananas. Le veilleur de nuit se rappelait même que la demoiselle avait joint la réception pour demander s'ils avaient du coca à la cerise, mais la réponse avait été négative. Jusque-là, le scénario de la cavale amoureuse tenait la route. Ensuite, les enquêteurs perdaient la piste des deux amants. Vinca et Alexis n'avaient pas pris de petit déjeuner ni dans leur chambre, ni dans la salle commune. Une femme de ménage les avait vus sortir dans le couloir, tôt le matin. Mais personne ne se souvenait avec précision de leur départ. Un nécessaire de toilette, contenant aussi du maquillage, une brosse Mason Pearson et un flacon de parfum, avait été retrouvé dans la salle de bain et déposé dans un local de maintenance où l'hôtel conservait les objets oubliés par ses clients. C'est là que s'arrêta l'enquête. Aucun témoignage crédible ne vint jamais rapporter la présence de Vinca et de Clément dans un autre lieu. À l'époque, la plupart des gens s'attendaient à les voir réapparaître une fois les feux de la passion éteints. Les avocats d'Alastair Rockwell s'obstinèrent néanmoins. En 1984, ils obtinrent que la justice ordonne une analyse génétique sur la brosse à dents et la brosse à cheveux trouvées dans la chambre d'hôtel. Les résultats confirmèrent qu'il s'agissait bien de l'ADN de Vinca, ce qui ne fit pas progresser l'enquête d'un pouce. Peut-être un flic obstiné ou obsédé avait-il depuis pris soin de relancer une investigation symbolique pour éviter que le dossier ne soit frappé de prescription. Mais à ma connaissance, ce fut le dernier acte de l'enquête. Alastair Rockwell tomba gravement malade et décéda en 2002. Je me souvenais de l'avoir rencontré quelques semaines avant le 11 septembre 2001, au 49e étage du World Trade Center, où son entreprise avait ses bureaux new-yorkais. Il m'avait confié que Vinca lui avait plusieurs fois parlé de moi et qu'elle me décrivait comme un garçon gentil, élégant et délicat. Trois adjectifs qui, dans la bouche du vieil homme, ne sonnaient pas comme des compliments. J'avais eu envie de lui répliquer que j'étais tellement délicat que j'avais défoncé un type qui me dépassait d'une tête avec une barre de fer, mais je n'avais évidemment rien dit. J'avais sollicité cette entrevue pour savoir si le détective qui l'avait engagé lui avait apporté des éléments nouveaux sur la disparition de sa petite fille. Il me répondit par la négative, sans que je sache si c'était la vérité. Puis le temps passa. Au fil des années, plus personne ne se soucia vraiment de savoir ce qu'était devenu Vinca Rockwell. J'étais l'un des seuls à ne pas avoir tourné la page, parce que je savais que la version officielle était fausse, et parce qu'une interrogation n'avait cessé de me hanter depuis. La fuite de Vinca était-elle liée au meurtre d'Alexis Clément? Étais-je responsable de la disparition de la fille que j'avais tant aimée? Ça faisait plus de 20 ans que je cherchais un éclaircissement à ce mystère. Et je n'avais toujours pas le moindre début de réponse.